Turning today to John's Gospel, chapter 4 and verse 4.
Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu ce matin dans l'évangile de Jean, au chapitre 4 et au verset 4. Évangile de Jean, chapitre 4, verset 4. Or, il fallait qu'il passe par la Samarie. Et nous allons étudier la femme samaritaine au puits. Et notre Seigneur, sa rencontre avec notre Seigneur. Et j'aimerais démarrer avec ce chapitre 4. Nous en arrivons à ce chapitre dans notre étude de l'évangile de Jean. Or, il fallait qu'il passe par la Samarie. Et je peux souligner que les traductions modernes tendent à traduire ceci comme un fait. Il devait passer par la Samarie, comme si c'était simplement une nécessité géographique ou quelque chose du genre, qu'il fallait qu'il passe par la Samarie. Oui, bien sûr que non, le Seigneur n'avait pas besoin de passer par la Samarie, c'était la route la plus directe, mais ce n'était pas la seule route. Il y avait trois routes bien connues, et deux des routes ne passaient pas par la Samarie, même si elles étaient un peu un détour. Et les scribes et les pharisiens et ceux qui leur ressemblaient, utilisaient ces détours, parce qu'ainsi, ils n'avaient pas besoin d'être en contact avec les gens de Samarie, qui étaient méprisés par les Juifs. Et ainsi, de traduire qu'ils devaient passer par la Samarie, ceci n'est pas entièrement juste. Et l'évangile de Jean nous dit plus que simplement un contexte géographique. Il y a tant de traductions modernes, et dans ce cas-là, c'est la version ESV qui dérive de la traduction RSV, qui est une traduction faite par les libéraux théologiques. Et ils n'en attendent pas beaucoup de la Bible et de Jean. Alors que Jean ici nous dit quelque chose de plus profond. Il prépare nos cœurs pour quelque chose qui va se passer. Il y a ces paroles assez mystérieuses. Il fallait qu'il passe par la Samarie. Ceci faisait partie de son plan. Il était nécessaire qu'il passe dans l'esprit de Christ. Il était nécessaire qu'il passe par la Samarie. Il avait une œuvre à faire là-bas. Il avait des gens à sauver là-bas, des Samaritains à gagner. Et ceci était important au début de son ministère qu'il aille visiter Samarie. Et il fallait qu'il passe par la Samarie. L'apôtre Jean nous prépare, il ouvre nos cœurs, oh, qu'est-ce qui va se passer, pourquoi est-ce qu'il y va, quelle est l'importance de sa visite à Samarie. Mais ne laissez pas les traductions modernes réduire ceci à une nécessité géographique. Ce n'est pas vrai qu'il devait passer par cette route. Au verset 5, il arriva donc à une ville de Samarie nommée Sychar. On pense, personne ne sait réellement, mais on pense que c'est à 12 kilomètres à peu près de Samarie, près de la terre que Jacob avait donnée à Joseph, son fils. Et au verset 6, là était le puits de Jacob. Jésus donc, fatigué du chemin, s'assit sur le puits. Je ne vais pas commencer encore parce que j'aimerais juste passer quelques moments pour souligner le fait que Jésus était fatigué. Et ensuite, je vais en arriver à notre étude, parce que je ne peux pas ignorer cela, parce que c'est la première référence dans l'évangile de Jean de sa fatigue. Jésus donc, fatigué du chemin, s'assit sur le puits. Le Seigneur est fatigué, ou si vous voulez, le Seigneur est épuisé. Quelle chose extraordinaire, quelle chose surprenante et étonnante que la deuxième personne de la Trinité glorieuse, le Seigneur de gloire, viennent dans une personnalité humaine et volontairement se soumettent aux limites de l'être humain et qu'ils connaissent la fatigue et l'épuisement. Chers amis, Jésus donc, fatigué du chemin, s'assit sur le puits. Il était fatigué et faible et il avait soif. Il n'a jamais eu un cheval, sauf au moment où, d'une manière symbolique, il est entré dans Jérusalem, monté sur un ânon. Il n'a jamais eu un cheval ou un carrosse ou quelque chose de ce genre. Quand vous achetez votre prochaine voiture, pensez à cela. Il n'a jamais eu quoi que ce soit de ce genre. Il s'est humilié pour nous, pour prendre notre place, pour souffrir les limites de l'être humain. Ne dépensez pas trop pour vous-même. Dieu vous donne la liberté dans ce que vous achetez, mais soyez sensible et raisonnable. Plus vous êtes loin de votre Sauveur dans le confort, dans le luxe, plus vous êtes loin de lui dans votre vie spirituelle, dans la sainteté, dans la sanctification. Ainsi, ne dépensez pas trop pour vous-même. Il était fatigué du chemin, l'humiliation volontaire de Christ. L'homme a chuté dans le jardin d'Éden où il devait vivre dans l'obéissance devant Dieu, dans une perfection parfaite. Il a chuté et Christ est venu entouré de péchés. Il a vu la tentation, connu la tentation et il a vécu une vie parfaite, entièrement parfaite, si pure que ses vertus peuvent nous être imputés pour que nous puissions avoir la récompense éternelle pour toujours. Une vie si parfaite qu'il a pu être qualifié pour porter notre péché, pour expier tous nos péchés, pour ôter notre condamnation à la croix du calvaire. Il a connu la fatigue et les limites humaines. Pour prouver son humanité, nous voyons cela, nous savons qu'il est réellement devenu homme pour prouver son humanité. Dans ces circonstances, il a vécu une vie parfaite, comme nous aurions dû, et il a ressenti nos difficultés, notre souffrance. Il a dû ressentir notre souffrance à la croix du calvaire. Sa divinité l'a soutenu, mais n'a pas dilué en quoi que ce soit sa souffrance. Il était sujet à la souffrance, aux limites humaines, et il a entièrement pris la condamnation à notre place à la croix du calvaire. Là était le puits de Jacob, et Jésus donc, fatigué du chemin, s'assit sur le puits. Christ, qui d'une manière extraordinaire se limite lui-même dans une personnalité humaine, par amour pour nous, il est venu, et il a été humilié ainsi. Et j'en arrive à la fin du verset 6, c'était environ la sixième heure. Sans aucun doute, selon la manière de compter des Romains, c'est-à-dire à 6 heures le soir, c'est très probablement le temps où la journée est plus fraîche, où les femmes viennent au puits pour puiser de l'eau. Et au verset 7, mon deuxième point, c'est cette femme qui était réticente à écouter. Il n'y avait jamais quelqu'un qui était si réticent à écouter que cette femme. Mais Christ était là. Une femme samaritaine étant venue pour puiser de l'eau, non pas de la ville de Samarie, mais de cette région de Samarie, d'un village, d'une petite colonie, peut-être à 1 kilomètre. Une femme samaritaine étant venue pour puiser de l'eau, Jésus lui dit, sans aucun doute, d'une manière polie et douce, « Donne-moi à boire. » C'est là la situation. Cette femme qui vient au puits. Et le Sauveur du monde est là, mais elle ne le sait pas. Il y a celui qui peut sauver son âme et la mettre sur le chemin du ciel, la bénir dans sa vie, lui donner le bonheur et les richesses spirituelles. Et elle n'en a aucune idée. Et elle trouve cela difficile. Nous pouvons voir, considérer ce texte, cette interaction entre Christ et cette femme de différentes manières. Certaines versions sont très optimistes par rapport à cette femme et essayent de montrer l'image d'une femme qui est en train d'être sauvée alors que la discussion continue, mais elle est très résistante, même jusqu'à la fin. Au verset 8, les disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Mais voici la réponse ici, la réponse de la femme samaritaine. Les Samaritains, en passant, plus de 7 siècles auparavant, en 722 avant Jésus-Christ, Samarie, la capitale du royaume du nord d'Israël a été assiégé et occupé et tombé aux mains de l'occupant. Et la plupart des gens ont été rendus captifs et ont été exilés, sauf certaines personnes qui étaient là autour, et Babylone est venue. Mais quelque chose de bizarre s'est passé, une autre sorte de religion s'est mise en place dans ce qui était auparavant Israël. Il restait uniquement Juda, le royaume du sud, mais cette nouvelle religion était un mix entre le judaïsme et le paganisme, la religion de Babylone. C'était un mix horrible des deux, et les gens de Samarie au temps de Christ croyaient dans le Pentateuch, les cinq livres de Moïse, mais rien d'autre. Si vous pouvez imaginer que l'interprétation de ces livres était loin, loin de la bonne interprétation. Mais c'était là la situation. Ils avaient leur propre temple avec des dieux païens sur le mont Garizim, qu'ils pouvaient probablement voir de ce puits-là. C'était cette femme samaritaine, c'était là sa religion, quelque chose qui était un peu de judaïsme et majoritairement du paganisme dans sa manière de penser. Et ici, au verset 9, la femme samaritaine lui répondit à Christ, « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Le fait est que les disciples étaient allés dans la ville pour acheter des vivres. Il y avait des affaires qui se faisaient entre les deux peuples, mais ceci était rare et ne se faisait pas qu'un homme juif parlait à une femme samaritaine pour lui demander son aide. Mais dans sa réponse, nous pouvons voir, je crois, qu'elle est plutôt en train de diminuer Christ, de le sous-estimer. Elle dit « Oh, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine » Qu'est-ce qu'elle voulait qu'il fasse? Qu'il reconnaisse son besoin? Ou est-ce qu'elle veut se sentir supérieure pour qu'elle cherche de l'eau pour lui? Quel est l'objectif de sa réponse? Je crois que c'est Jean dans son évangile qui ajoute ceci, car les Juifs n'ont point de communication avec les Samaritains. Cette femme n'aurait pas dit ça, mais c'est pour nous expliquer. Et ceci explique ses paroles. C'est là ce qu'elle exprime. C'est comme se mettre en avant. « Oh, tu es juif, tu nous méprises, et maintenant tu dépends de moi. Pourquoi est-ce que tu me demandes cette faveur, ce service ?» Quelque chose du genre. Elle est compliquée et elle continue à être compliquée. « Oh, je ne suis pas contre elle, pas du tout. » Mais c'est là ce qu'elle répond. Et elle parle facilement. Tout ce qu'elle dit, elle utilise beaucoup de termes pour les dire. Au verset 10, Jésus répondit et lui dit « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui demanderais toi-même et il te donnerait de l'eau vive. » Est-ce qu'il sourit alors qu'il dit cela? Je pense, « Oh, pauvre femme, si seulement tu savais qui est celui à qui tu parles !» Il parle pour amener sa curiosité. « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit ?» Elle ne va pas répondre à cela. « Mais qui es-tu alors ?» « Donne-moi à boire », elle ne va pas dire cela. Et ensuite, il lui donne cette énigme. « Tu lui demanderais toi-même et il te donnerait de l'eau vive. » C'est une énigme qui a deux significations possibles. L'eau vive, l'eau qui coule, l'eau de source. Ceci ne vient pas d'un puits qui a de l'eau qui vient de la nappe phréatique, mais c'est de l'eau vive. Et l'eau au fond du puits, qui est très profond, nous le connaissons aujourd'hui, et ce puits a plus de 30 mètres dans une terre solide de calcaire. Mais l'eau vive, il y a de l'action, il y a de la vie, l'eau vive. Cette énigme peut se référer à cela, mais peut être également complètement symbolique, et c'est le cas Le Seigneur lui dit, tu lui demanderais toi-même et il te donnerait de l'eau vive. Il parle de la vie spirituelle, de la puissance spirituelle, de la bénédiction spirituelle. Mais cette pauvre femme est si matérialiste dans sa pensée et si inconsciente de toute chose spirituelle qu'elle ne comprend pas ces choses. Elle ne comprend pas cette énigme et sa réponse au Seigneur n'est pas une énigme. Elle pense qu'il se réfère que à l'eau qui est là au fond du puits. Il te donnerait de l'eau vive. Et regardez la réponse, la femme lui dit, Seigneur, elle est pleine de respect, Seigneur, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Elle semble savoir qu'on peut puiser de l'eau. Et si on veut vraiment avoir l'eau vive la plus fraîche, alors on peut aller encore plus profond. Mais Seigneur, tu n'as rien pour puiser, alors où est-ce que tu vas trouver cette eau vive? Ceci ne lui passe pas à l'esprit. Pas du tout qu'il y a un sens spirituel qui est impliqué là. Combien d'entre vous, vous parlez à des gens et vous aspirez à les amener à connaître Christ et nous trouvons la même réponse, il est si dur, si difficile. Amener les gens à réfléchir à quoi que ce soit de spirituel, quoi que ce soit de vrai. Et de même pour nous, nous étions si lents à comprendre, chacun d'entre nous, même si vous êtes très intelligent, vous étiez si lents à comprendre les choses spirituelles. Et ceci est vrai pour cette femme. Elle nous représente chacun d'entre nous. Elle n'a pas compris quoi que ce soit de spirituel. Et ensuite, elle a beaucoup de choses à dire et elle le reprend gentiment. Je pense qu'elle aimait parler. Au verset 12, « Es-tu plus grand que Jacob notre père qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» Et Christ dit quelque chose de plus ferme. Jésus lui répondit avec ces paroles extraordinaires, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. » Ceci, ce n'est que de l'eau matérielle. Quand vous buvez, vous devez boire à nouveau. Plusieurs fois par jour, vous avez besoin de boire. Combien de fois par semaine? Combien de fois par mois? Vous ne pouvez pas estimer, ça n'a aucun sens. Combien de fois par an? Combien de fois dans votre vie? Simplement de l'eau, et nous en avons besoin toujours à nouveau. Comme toute chose dans ce monde, si je peux avoir ceci, alors je serai satisfait dans ma vie. Si je peux simplement avoir ceci ou cela, si je peux recevoir ceci, cela ou peut-être cette position dans la vie, si seulement j'avais cette situation professionnelle, alors tout irait bien. Mais vous allez boire à nouveau et à nouveau vous aurez besoin de boire parce que la vie est une succession de choses où vous devez chaque fois boire à nouveau pour une autre source de joie, de force, d'encouragement, toujours à nouveau, constamment vous avez besoin de ces choses. C'est là la différence entre la vie spirituelle et l'eau. Au verset 14, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai. » Cette bénédiction spirituelle n'aura plus jamais soif, mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui quelque chose qu'il possède, qu'il ne perd jamais, une source d'eau qui jaillira pour la vie éternelle. Nous devrions passer toute la matinée sur ce verset qui est si riche, si profond, mais je n'en ai pas le temps. J'aimerais parler de tout ce récit. Quelle image du salut! Vous avez une bénédiction que vous recevez qui émancipe votre esprit pour que vous puissiez comprendre les choses spirituelles et les Écritures de Dieu, et vous recevez cette bénédiction qui vous donne une nouvelle nature, un nouveau caractère. Vous recevez cette bénédiction qui vous donne la vie spirituelle pour que vous puissiez être en communion avec Dieu, vous pouvez le prier et il répond à vos prières. Et vous recevez cette bénédiction qui vous change, transforme moralement dans votre éthique. Et vous recevez cette bénédiction qui vous donne cette grande joie, et alors vous vous préparez pour l'éternité, et vous vous réjouissez pour l'éternité. Ces choses sont extraordinaires, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai. Quelle tragédie que les gens sont indifférents à Christ. Oh, nous étions tous dans cette situation un jour. Puis nous l'avons trouvé, et il s'est révélé à nous, et notre vie a été transformée. Mais quelle est la réponse de cette femme à ce qu'il lui dit ? Elle ne comprend pas, elle ne comprend toujours pas. Oh, chers amis, c'est comme moi il y a bien des années. Oh, les gens trouvaient probablement que j'étais si fermée quand ils essayaient de me faire comprendre le chemin du salut. Au verset 15, la femme le dit : « Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Elle pense encore en termes matériels. Elle pense encore qu'il parle d'eau. Elle ne comprend pas le symbole de la vie spirituelle, de la vie nouvelle. Que moi, je dois venir, que je dois venir pour que le Seigneur me donne cette première flèche de conviction de péché dans mon cœur. Ceci parle de péché et nous allons y venir. Vous pouvez être le meilleur expert dans tous les arguments d'apologétique, mais vous devez en arriver à ce point. Ceci, c'est le pardon du péché. Nous ne connaissons pas la vie des gens comme le Seigneur connaissait la vie de cette femme et il a envoyé cette flèche, la bonne flèche. Mais nous devons dire aux gens que la foi en Christ, ceci c'est nous confier en lui, croire en lui et nous repentir et recevoir cette vie nouvelle de sa part. Au verset 16, Jésus lui dit « Va, appelle ton mari et viens ici. » Appelle ton mari. À présent, cette dame qui aime parler, elle a une réponse pour toute chose et elle ne comprend pas. Mais à présent, soudainement, elle est dans une position très inconfortable et elle ne sait plus quoi dire. Au verset 17, la femme répondit « Je n'ai point de mari. » Toutes ces paroles qui coulaient auparavant en abondance ont disparu. « Je n'ai point de mari. » Ces cinq termes en français, mais uniquement trois termes en grec. « Je n'ai », c'est un terme en grec. « Point », le négatif, c'est un terme. Et « mari », c'est le troisième terme. Simplement trois mots. Elle dit le minimum. La femme répondit « Je n'ai point de mari. » Elle n'allait pas dire plus. Elle ment parce qu'elle vit avec un homme et elle en a eu cinq maris. C'est probablement pour cela qu'elle est seule au puits. Vous attendez à avoir plusieurs femmes là au puits et elles se rassemblent, elles viennent ensemble et c'est une occasion sociale pour ces femmes. Elles se rassemblent à ce puits pendant qu'elles font leurs tâches. Mais les autres femmes la rejettent et son style de vie n'était pas approuvé par les autres probablement. Mais elle répondit « Je n'ai point de mari. » Elle ment parce qu'elle ne veut pas qu'il sache quoi que ce soit par rapport à sa vie. Jésus lui dit au verset 17 « Tu as fort bien dit « Je n'ai point de mari. » Car tu as eu cinq maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Tu as dit vrai en cela. » Elle a dû être stupéfaite. Si elle est sensible sur ce point-là, et c'était le cas, maintenant, elle est stupéfaite. « Oh, il connaît tout par rapport à moi, ceci est impossible. Il n'est jamais venu près de notre village, comment est-ce qu'il peut savoir ces choses ?» Elle est choquée, stupéfaite. C'est la première flèche de conviction de péché. Mais elle va encore tenir ferme. Vous remarquez qu'elle essaye de changer le sujet au verset 19. La femme lui dit « Seigneur, je vois que tu es un prophète. » Au verset 20, « Nos pères ont adoré sur cette montagne. » Probablement, elle montre du doigt le mont Garizim. Et vous, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Aussi souvent, vous parlez à quelqu'un du Seigneur et ils vous disent « Oh, comment est-ce que vous pouvez savoir quelle est la bonne religion ? Il y a tant de religions. » C'est ce que cette femme fait ici, parce qu'elle est dans une position inconfortable, et soudainement, ceci en arrive à sa vie, à son péché, à son besoin de Christ. Mais, oh, comment est-ce que je peux savoir ? Vous dites ceci, et notre peuple dit quelque chose d'autre. Elle essaye de changer de sujet, et jusqu'à la fin, même plus tard, au verset 25, la femme lui dit, « Je sais que le Messie, celui qu'on appelle Christ, doit venir. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Les gens de Samarie, parce qu'ils avaient le Pentateuque, ils croyaient dans le Pentateuque, ils connaissaient ces promesses faites par Moïse, qu'il y aura un grand prophète, un Messie qui va venir, et tous vont l'écouter. Elle savait cela. Et elle répond, « Oh, un jour nous saurons, quand le Messie viendra. » Elle est une femme qui résiste terriblement. Et au verset 17 et 18, Christ change la conversation et parle de son péché. Comme vous le savez, il y a eu un référendum en Irlande. 2/3 des gens ont voté en faveur de l'avortement. Le résultat de ce vote, c'était des gens qui étaient heureux, pleins de joie, parce qu'ils se sont débarrassés de Dieu. Ils se sont débarrassés de « tu ne tueras point » dans un domaine où ça ne nous plaît pas. Nous avons décidé pour nous-mêmes ce qui est moral, ce qui est juste, ce qui est faux. La démocratie a décidé, nous nous sommes débarrassés de Dieu, de son commandement. Et maintenant les gens jubilent, pleins de joie. Les gens ne croient pas dans le péché de nos jours. Et non seulement en Irlande, nous, on l'a fait dans notre pays, en 1967, pas par référendum, un vote contre Dieu. Quelle chose terrible, chers amis. Mais les gens ne croient pas dans le péché. Cette femme ne croyait pas qu'elle était pécheresse. Ce qu'elle a fait en ayant un homme après l'autre, un mari après l'autre, en ayant un divorce superficiel, en se remariant, elle n'avait aucun concept de son péché. Si nous avions vécu il y a 100 ans, les gens avaient un concept important du péché. Et ceci était enseigné. Ceci n'est plus enseigné dans notre société de nos jours. Les gens ne croient plus dans le péché. Uniquement dans certains péchés, il doit y avoir des règles contre la violence, contre le vol d'une propriété, des choses qui vous appartiennent, ces choses que nous ne voulons pas. Mais autrement, nous ne voulons pas croire dans le péché, nous ne l'acceptons pas. Mais la conscience est encore là. Et ainsi, nous devons parler du besoin du pardon, de la pureté, de la sainteté de Dieu, de son amour, dans le fait qu'il a préparé un chemin, que Christ a souffert, il est mort pour les pécheurs, et que si nous croyons en lui, il est essentiel de croire en Christ. Nous devons continuer à déclarer ce message. Et Christ a ramené ceci dans cette conversation. Le temps passe. Mais je voulais passer un peu de temps sur l'enseignement de Christ, sur l'adoration du Seigneur. Au verset 21, « Femme, comment est-ce que nous devons savoir comment adorer le Seigneur ? Notre manière d'adorer le Seigneur à Samarie ou votre manière à Jérusalem ?» Oh, ici, Christ donne des paroles si profondes qui sont un message pour cette femme, également un message qui est encore d'actualité de nos jours, avec de grands principes. L'adoration sincère, c'est là mon prochain point. Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, le temps vient où vous n'adorerez plus le Père ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Pour nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. » Et j'aimerais maintenant me concentrer sur le verset 23. « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car le Père demande de tels adorateurs. » Christ dit que le moment est venu où il n'y aura plus de symboles. Il n'y aura plus cette adoration juive de l'Ancien Testament avec ses symboles physiques, ses sacrifices, ses cérémonies, ses rites qui étaient tous pleins de leçons. Mais toutes ces leçons seront accomplies en Christ qui va personnellement faire ce grand sacrifice et ce sacrifice éternel quand il va ôter la condamnation du péché pour tous ceux qui seront sauvés. Et il va porter cette condamnation. Et ensuite, il n'y aura plus de symboles dans l'adoration du Seigneur, plus d'éléments physiques dans l'adoration du Seigneur, dans la louange. Et la règle pour l'adoration, ce sera en esprit et en vérité. Et c'est là ce que le Seigneur nous dit au verset 23, et il le répète au verset 24, parce que ceci est très important, tellement important, ce grand principe. La règle d'or de l'adoration du Seigneur est répétée. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. En esprit. Et ceci s'oppose à, avec toutes sortes d'aides matérielles, physiques, plus de sacrifices, plus de rites, de routines, de rituels, d'autels qui étaient valables dans leur temps, mais qui enseignait une leçon pour l'avenir. Mais maintenant, ces choses ne sont plus valables. Ces symboles ont été accomplis. Il l'adore en esprit, c'est-à-dire du cœur. Ces paroles qui vont vers le Seigneur en vérité. L'adoration du Seigneur, c'est par des paroles. Des paroles en prière, des paroles en pensée, des paroles qui sont chantées, que vous chantiez un cantique ou que vous priez ensemble, en groupe ou en privé, des paroles. S'il n'y a pas de paroles, il n'y a pas d'adoration du Seigneur. Oh, il y a des gens qui ont des rêves, des visions et qui adorent le Seigneur dans ces visions. Ceci n'est pas adorer le Seigneur en esprit et en vérité. S'il n'y a pas de paroles, s'il n'y a pas de compréhension rationnel, alors il n'y a pas d'adoration. Vous ne pouvez pas adorer le Seigneur avec votre esprit éteint, parce que l'esprit, c'est le palais de la foi. Tout passe par votre esprit, par votre pensée. Ceci touche votre cœur également, mais votre compréhension. Le cœur comprend et l'esprit répond à ce que le cœur comprend. Certaines personnes sont dans l'erreur en pensant qu'il faut d'abord toucher le cœur avec une certaine émotion dont la Bible dit non, en esprit et en vérité. Ceci passe par l'esprit, la pensée, et parce que nous comprenons cela, que nous apprécions cela, alors le cœur répond. Les gens disent non, il faut que la musique nous amène dans une certaine émotion, les rythmes, la manipulation émotionnelle, pour que les gens puissent avoir ces sentiments. Non. Tout ceci, c'est un faux plaisir. Ceci n'est pas différent de ces sentiments des concerts mondains et des divertissements mondains. Mais l'adoration est en esprit et en vérité. Dieu, le Dieu saint, les doctrines vraies, les doctrines si profondes, Christ dans l'Écriture, ces choses que nous apprécions, que nous aimons. Et le cœur comprend ces choses et répond. Et c'est là l'adoration du Seigneur. C'est pour cela que les réformateurs ont dit « Faites sortir le théâtre de l'église de Rome hors de l'église et prêchez la parole de Dieu, priez et prêchez. » Parce que ceci passe par le palais de notre esprit, de notre pensée. Et nous comprenons ces choses, nous aimons le Seigneur et nous le donnons à lui. Ceci est si différent, si loin du divertissement mondain en esprit et en vérité. La vérité inclut un grand nombre de choses, c'est la sincérité. Ce sont des paroles que nous comprenons, qui sont claires, qui sont dans notre intelligence, d'une manière rationnelle. Ceci est répété par le Seigneur. Si seulement nous avions le temps d'explorer cela d'une manière plus profonde, un jour peut-être nous allons y revenir. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. J'ai entendu un jour quelqu'un qui disait « Est-ce que Dieu aime le rap ? Est-ce que Dieu aime le rap ? » Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, parce que le Père recherche de telles personnes qui l'adorent. Le Père désire, il recherche de telles personnes pour l'adorer. Ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et avec beaucoup de respect également, et d'amour, et de consécration. Christ se révèle à cette femme, et je conclus avec ces paroles, verset 25. Cette femme, elle est encore là, barricadée contre Christ. Elle lui dit, je sais que le Messie, celui qu'on appelle Christ, doit venir, et quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Et Jésus lui dit, je le suis, moi, qui te parle. Cette révélation de Christ et qui coïncide avec l'œuvre de régénération du Saint-Esprit, Christ se révèle à elle. Et on ne nous dit pas les détails, mais tout d'un coup, elle a tout compris à ce moment-là. Sa bonté, sa sagesse, sa patience, sa gloire, sa nature glorieuse, ses paroles. Elle a compris tout d'un coup toutes ces choses. Il est le Messie, c'est pour cela qu'il connaît tout par rapport à moi. Et je dois me repentir de mon péché et je dois crier à lui pour son pardon et l'invoquer. Et les disciples arrivent. Elle était si confuse, elle a laissé sa jarre là et elle est retournée à la ville en disant « Oh, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait et toutes ces choses terribles que j'ai faites. Il est le Messie. » Ils n'ont jamais vu cette femme se repentir et tous sont venus pour l'écouter. Et il y a eu ce réveil parmi les Samaritains. Le Seigneur savait exactement pourquoi il a fait ce détour vers ce village de Samarie. Nous avons vu, chers amis, qu'il était fatigué. Nous avons vu cette femme qui était si réticente à écouter. Nous avons vu comment il a amené la conversation vers le problème du péché et le besoin du pardon. Nous avons vu quelques versets par rapport à l'adoration du Seigneur authentique. Nous avons vu la révélation de Christ qui a fait toute la différence pour cette femme et pour cette ville. Que Christ se révèle à ceux qui le cherchent aujourd'hui et ici, parce que, à moins que le Seigneur ne vous rende capable de le voir lui, le Sauveur du monde, alors il n'y a pas d'espoir pour votre âme.